Ils sont moins glamour que le petit Robert et le Larousse. Leur accès est sans doute plus ardu, mais les initiés apprécient à quoi servent les dictionnaires disciplinaires.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans De vive voix. Gros plan aujourd'hui sur des livres très sérieux qui ne sont guère prisés des médias, les dictionnaires disciplinaires destinés aux professionnels ou aux étudiants et qui recensent le vocabulaire, les notions, les concepts relatifs à un domaine spécifique. À l'heure de ChatGPT et de Wikipédia, les dictionnaires ont-ils dit leur dernier mot ? On en débat avec nos invités. Marion Tellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités à Aix-Marseille Université et présidente de l'ASDIFL, l'association de didactique de FLE, une société savante qui travaille sur la didactique du français langue étrangère. En ligne avec nous, Anne Jorot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite des universités au CNAM de Paris et autrice d'un dictionnaire des concepts de la professionnalisation paru aux éditions de Book en 2022. Et en duplex de France Bleu Isère, Laura Abouaïdar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de l'université Grenoble-Alpes au labo LIDILEM, linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles en sciences du langage FLE. Marion Tellier, d'abord, qu'est-ce qui différencie les dictionnaires disciplinaires des dicos de type Robert, Larousse ou même d'une encyclopédie ?
Bien, comme vous l'avez dit, ça rassemble en fait les concepts et les notions clés d'une discipline. Donc, par exemple, si on prend un dictionnaire de sociologie, on va avoir des termes comme habitus, classe sociale, identité, et ils vont être définis à la lumière, en fait, de la sociologie. Donc, ça va prendre un sens particulier et technique.
Est-ce qu'un dictionnaire de la marine, de l'astronomie ou de l'agriculture est un dictionnaire disciplinaire ?
Oui, à partir du moment où on est spécialisé dans une discipline, dans un champ.
Donc on peut les appeler disciplinaires ou spécialisés, c'est la même chose.
Oui, à peu près, oui.
Dans les dictionnaires disciplinaires ou spécialisés, on trouve des mots, des noms bien sûr, mais aussi des notions, des concepts qui sont développés.
Oui, tout à fait. Et ils vont avoir une amplitude, en fait, plus ou moins importante en fonction du champ disciplinaire. Donc, je crois que vous avez devant vous
J'ai devant moi le dictionnaire de didactique du français. Et par exemple, j'ai choisi le mot « langue ». Donc, il y a une définition du mot « langue » qui prend 2 pages. Et ensuite, il y a 32 sortes de langues qui sont définies, de la langue maternelle à la langue dominante, de la langue source à la langue vernaculaire. Donc c'est effectivement très très complet. On sait tout sur le mot langue et ce qu'il recouvre. Donc ça s'adresse vraiment aux spécialistes, c'est-à-dire les professionnels du français langue étrangère ou alors les étudiants eux-mêmes.
Oui, les étudiants eux-mêmes, les chercheurs, les formateurs, voilà, toute personne qui va être dans ce champ. Donc pour nous, c'est le français langue étrangère, bien sûr. Et voilà, ça va être une ressource vraiment intéressante où on va trouver, comme vous l'avez dit, langue, quand on enseigne le français langue étrangère, c'est une notion très importante. Donc on va avoir besoin d'une définition conséquente.
Est-ce qu'il existe beaucoup de dictionnaires disciplinaire en français? Vous avez une idée du nombre de...
Alors là, pas du tout.
Pas du tout.
J'imagine que chaque discipline a un, voire plusieurs dictionnaires, puisqu'il peut y avoir aussi différents dictionnaires dans une même discipline.
Et est-ce que ces dictionnaires spécialisés sont disponibles en version numérique ou uniquement papier?
Alors, pendant très longtemps, c'était papier. Comme un dictionnaire en fait classique, hein. On a beaucoup de ressources papier. Et puis on voit apparaître progressivement là ces dernières années des dictionnaires numériques qui ont plusieurs avantages. Déjà, ils sont moins lourds à transporter. Et puis ils sont plus faciles peut-être pour naviguer à l'intérieur de ces dictionnaires, puisqu'on peut faire une recherche avec un moteur de recherche. Mais aussi, on peut les actualiser. Parce qu'un dictionnaire papier, une fois qu'il est figé, imprimé, eh bien, s'il y a des nouvelles notions qui apparaissent, c'est plus difficile à actualiser. Il faut faire une deuxième édition, par exemple.
On va en parler tout à l'heure des deuxièmes éditions. Marion Tellier, vous présidez l'ASDIFL, hein, je l'ai dit, l'association de didactique du FLE. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la didactique du français langue étrangère ?
Oui, alors c'est là que c'est intéressant d'aller voir un dictionnaire disciplinaire, mais pour faire une explication simple, la didactique, c'est l'ensemble des réflexions théoriques sur une matière à enseigner. Donc par exemple, si je prends la didactique des mathématiques, je prends tout ce qu'on connaît sur les mathématiques et puis je réfléchis sur comment on va pouvoir enseigner les mathématiques, qu'est-ce que je vais faire, à quel âge chez les enfants, qu'est-ce qu'on va enseigner en premier, quelles sont les théories sur l'apprentissage qu'on connaît, voilà comment on construit l'enseignement d'une discipline. Pour le français langue étrangère, c'est pareil, on réfléchit sur la langue française, les théories d'apprentissage et on va créer des méthodes, des méthodologies, des réflexions sur la façon dont on enseigne le français comme langue étrangère.
Alors vous organisez vendredi, le 5 avril, une journée de réflexion sur les dictionnaires disciplinaires. Ça se passera de 9h à 17h à l'Alliance française de Paris et en ligne. Qu'attendez-vous comme résultat concret de cette journée de réflexion ?
Alors déjà, la question, c'est pourquoi on a fait cette journée ? Parce que il y a un dictionnaire de didactique du français langue étrangère que vous avez effectivement entre les mains. Il date de 2003. Voilà, c'est le dictionnaire qui avait été coordonné par Jean-Pierre Cuc sous l'égide de l'ASDIFL déjà. Eh bien, ce dictionnaire, il a plus de 20 ans, donc beaucoup de termes sont apparus. Si on pense à toute la révolution qu'il y a eu dans l'enseignement ces dernières années avec le numérique, par exemple, ou l'enseignement à distance, ou même des mouvements autour de l'Europe, par exemple, sur l'enseignement des langues, on a besoin de faire un nouveau dictionnaire. Donc on a commencé à s'attaquer à ce nouveau dictionnaire avec le bureau de l'ASDIFL, et on s'est posé plein de questions. C'est-à-dire quelles notions on met, lesquelles on enlève, qui sont obsolètes, lesquelles on ajoute, quelle longueur, est-ce qu'on détaille comme l'entrée langue qu'on avait tout à l'heure, ou est-ce qu'on n'a pas besoin de détailler, qui va écrire les notions, est-ce qu'on met des références. On s'est posé plein de questions. Donc on s'est dit, on va aller contacter des collègues qui ont coordonné des dictionnaires disciplinaires dans notre champ ou des champs qui sont proches, et on va leur poser toutes ces questions.
Alors Anne Jorot, vous faites partie des spécialistes qui avaient l'expérience de dictionnaire disciplinaire, puisque vous avez publié en 2022 la deuxième édition du dictionnaire des concepts de la professionnalisation. Alors j'ai besoin d'être éclairée, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de concept de la professionnalisation ?
Alors d'abord, dire que les concepts de la professionnalisation concernent le champ large du monde du travail, de l'évolution des métiers et de la formation des acteurs aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc dans ce cadre-là, un exemple, ce serait par exemple celui de l'identité professionnelle, qui est un concept fondamental pour qu'une personne se formant puisse incarner le métier, puisse se repérer dans le métier, puisse s'identifier et comprendre que ce qu'elle fait est en phase avec la personne qu'elle est. Un autre concept serait celui de l'orientation professionnelle, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, France Travail, qui est aujourd'hui une nouvelle institution d'orientation vers les secteurs d'entreprise, de tout le monde du travail, amène des individus à rencontrer des conseillers d'orientation, des conseillers en insertion professionnelle, des conseillers en orientation professionnelle pour trouver la voie qui peut leur convenir. Des concepts liés au métier, c'est aussi par exemple celui de geste professionnel. Comment me repérer dans un métier qui évolue, est-ce que j'ai mis en œuvre le geste adéquat pour mettre en œuvre l'activité le mieux possible?
Vous avez fait appel à combien de chercheurs pour constituer ce dictionnaire?
Alors, dans un premier temps, puisque on parle d'une deuxième édition, mais lorsque j'ai conçu l'idée du dictionnaire en 2014, il s'agissait de repérer 50 spécialistes. Et puis l'évolution, vous voyez, en 8 ans, de 2014 à 2022, sont apparus de nouveaux concepts, justement en lien avec l'importance du numérique, des transitions professionnelles, des métiers en évolution. Et donc, je suis arrivée à, finalement, lister 80 concepts.
Et ces chercheurs, ils ont travaillé seuls ou en équipe ?
Alors, c'est un dictionnaire qui permettait de mobiliser des chercheurs dans la francophonie. Donc, j'ai sollicité des chercheurs au Canada, au Portugal, en Belgique, en Suisse, en France, quelquefois en Italie. Et donc, des chercheurs qui avaient une connaissance de l'importance de ces concepts et qui pouvaient finalement travailler ensemble. Donc, par exemple, sur l'éthique professionnelle, qui était un concept important, j'ai sollicité une Canadienne et une Française. On a eu comme ça des binômes de chercheurs qui préféraient travailler ensemble plutôt que se confronter à un concept de façon solitaire.
Et est-ce que vous leur avez donné un cahier des charges à respecter ?
Oui, c'était très important, puisque inutile de vous dire que chaque spécialiste a envie de vous dire que son concept est le plus important. Donc il fallait que ces concepts puissent être traités avec une certaine équité en termes de développement. Et donc la feuille de style consistait à dire qu'ils avaient tant de signes, donc à peu près pas plus de trois pages pour travailler le concept, et structurer le concept en trois temps. Le premier était relatif à la présentation du concept, donc un travail assez sérieux, remontant aux sources linguistiques du concept. Et puis, un deuxième temps était consacré à la mise en évidence du débat autour, ou des débats autour du concept. Et enfin, je demandais aux auteurs de trouver une bibliographie très succincte qui pouvait être un premier pas vers la connaissance du concept pour des lecteurs qui découvraient ces concepts.
Ce soir, je sors enfin, quand ma ville dort, je sors, putain, je mets ma robe. Je la dévore, la nuit me prend. Je cours un peu, j'étreins l'hiver. Je croise un homme beau en impair. Mon cœur se serre. Et si demain tout est fini, je m'en fous, ce soir je suis en vie. Je suis en vie. Et je parle aux étoiles, je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. Décalquée au Karcher, sur le pont des arts, il pleut fort. Des mouettes sans l'odeur de la mer. Salut de haut, un pigeon mort, je cours encore. Et si demain tout est fini, je m'en fous, ce soir je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Je prends les armes, je mets à mort les doutes, le chaos dans mon crâne. Sur le quai de Montebello, j'attrape le sourire d'une passante, le bleu de ses yeux, Morito chante l'espoir. Alors je danse.
Ce soir, je sors Clarica en playlist RFI, titre extrait de l'album de Clarica, Danse encore. Vous écoutez De Vive Voix, nous sommes toujours en compagnie de trois spécialistes des dictionnaires disciplinaires, sédicaux ultra spécialisés dans un domaine. Laura Abouhaïdar, vous avez réalisé une enquête sur les utilisateurs de dictionnaires spécialisés ou disciplinaires. Avant d'entrer dans les détails, une question simple, est-ce que les dicos ont toujours la cote ?
Alors oui, les DICO ont tout à fait la cote et cela se voit parfaitement à travers l'enquête que nous avons réalisée en ligne avec mon collègue Brahim Azaoui, maître de conférence à l'Université de Montpellier.
Donc vous avez envoyé un questionnaire à combien de personnes ?
Alors nous avons diffusé l'information en ligne sur nos réseaux sociaux et au final 106 personnes ont répondu sur un laps de temps extrêmement court et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants, d'autant que ces personnes ont répondu d'une trentaine de pays extrêmement variés de la francophonie.
Par exemple, est-ce que le continent africain a été très présent dans les utilisateurs de dictionnaires spécialisés qui avaient envie d'exprimer leurs souhaits ou leurs remarques?
Ah oui, tout à fait. Nous avons des personnes qui ont répondu d'Égypte, du Nigeria, du Maroc, de l'Ouganda, mais aussi de Tunisie, des Émirats Arabes Unis, de Singapour, d'Iran, du Kazakhstan, etc. Donc, on peut vraiment constater que le français est très vivace et que les dictionnaires inspirent suffisamment de personnes partout dans le monde.
Alors, ces dictionnaires, ils les utilisent sous quel format, papier ou numérique ?
Alors, les dictionnaires sont utilisés aussi bien sous format papier que sous format numérique. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons mené une enquête couvrant plusieurs tranches d'âge depuis 18 ans, théoriquement en première année à l'université, jusqu'à la tranche d'âge supérieure à 50 ans. Et toutes les tranches d'âge utilisent aussi bien des dictionnaires sous format papier que sous format numérique, sachant que les plus jeunes sont ceux qui ont le plus massivement recours au format numérique, alors que les plus âgés, 25 ans et plus, ont recours aussi bien à du numérique qu'à du papier.
Et à quoi ressemblerait pour eux le DICO du futur ?
Alors, le DICO du futur, ça c'était une question tout à fait passionnante. C'est une question qui a fait ressortir des éléments tout à fait intéressants. Tout d'abord, on a la première catégorie qui ressort de l'enquête, c'est que le support numérique est plébiscité parallèlement au support papier. C'est-à-dire que très massivement, les personnes interrogées souhaitent avoir un dictionnaire en ligne, internet, sous format numérique, mais avec une version papier, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui correspond aussi à des usages que l'on peut observer, par exemple, dans certains pays dans lesquels l'accès à Internet est inversement proportionnel à celui que nous avons en France. Nous avons aussi une deuxième catégorie par rapport à la modalité numérique qui ressort. Les enquêtés plébiscitent un format du type Wikipédia, collaboratif, interactif, dynamique, évolutif. Et on voit vraiment une des particularités de la didactique, qui est une discipline carrefour assez récente et en pleine évolution, dans le sens où les usagers souhaitent avoir accès à un outil qui soit régulièrement mis à jour. De plus, les enquêtés souhaitent malgré tout une reconnaissance, une garantie scientifique, puisqu'un certain nombre souhaitent avoir un dictionnaire qui puisse bénéficier d'un comité de lecture avec une instance de validation scientifique et un outil qui soit reconnu par le domaine de la didactique et enfin un outil qui soit dans l'optique science ouverte, c'est-à-dire accès libre et gratuit. Là, on est vraiment dans un mouvement qui s'installe dans beaucoup d'universités et de centres de recherche en France et à travers le monde, à savoir la science pour tous et accessible à tous.
Laura Abouaïdar, est-ce que l'intelligence artificielle constitue une menace, à votre avis, pour les dictionnaires disciplinaires ? Est-ce qu'un jour, il risque d'être remplacé par ChatGPT ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort à travers cette enquête, c'est que l'intelligence artificielle est tout à fait présente. Nous avons un petit quart de personnes qui souhaitent que l'intelligence artificielle soit intégrée d'une manière ou d'une autre dans cet outil. Mais curieusement, cela ne constitue pas à ce stade en tout cas, une menace, puisque le dictionnaire papier et le dictionnaire numérique disciplinaire continuent à être la référence à travers cette enquête. De plus, lorsque on interroge au jour d'aujourd'hui, en 2024, les enquêtés sur les problèmes qu'ils rencontrent, les résolutions qu'ils pourraient avoir par rapport à un certain nombre de problèmes pour définir une notion, par exemple, ce n'est pas l'IA qui vient en premier, mais consulter un autre dictionnaire ou faire appel à un collègue. Donc l'IA est très clairement une nouveauté dans les pratiques de recherche, mais ne constitue à ce stade absolument pas une menace.
Marion Tellier, même question. ChatGPT, concurrence ou menace pour les dictionnaires ?
Alors, c'est une question intéressante. Et justement, lors de la journée qu'on organise le 5 avril, deux collègues du bureau de l'ASDIF, Émilie Perrichon et Sabrina Royer, ont parlé d'une expérience qu'elles ont faite avec leurs étudiants en master français langue étrangère. Alors, on fait justement chercher des définitions sur ChatGPT versus des dictionnaires disciplinaires pour voir justement comment les étudiants recevaient ces définitions. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants, au début, préfèrent ChatGPT parce que la définition est plus facile à comprendre, c'est moins jargonneux. Mais en fait, quand ils regardent d'un peu plus près, ils se rendent compte que déjà, c'est très redondant, les définitions sur ChatGPT. Il n'y a aucune référence, ce qu'on attend dans un écrit universitaire, et les exemples ne sont pas très clairs. Donc finalement, comme disait Laura, quand ils utilisent des dictionnaires disciplinaires, ils ont une caution en fait, scientifique, une caution des spécialistes qui ont écrit ces définitions, et donc la définition qu'ils trouvent est plus fiable, on va dire, et appartient beaucoup plus au champ dans lequel on s'inscrit.
Anne Joro, vous êtes d'accord ?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord parce que je pense que l'IA est un complément, mais ne peut pas se substituer pour le moment, en tout cas, à la présentation par des chercheurs qui ont un degré de raffinement dans l'écriture d'explication des concepts qui est très élaboré. Donc, pour l'instant, je dirais que le dictionnaire classique, comme on l'utilise actuellement, n'est pas remplaçable immédiatement, mais il peut être trouver des étayages ailleurs, et l'IA pour l'instant me paraît avoir un statut de complément.
Marion Tellier, à quel moment allez-vous décider que votre futur dictionnaire de deuxième édition de didactique du français, voilà, j'y arrive, sera complet, achevé, terminé? Parce que c'est, j'imagine, on a parlé tout à l'heure de l'obsolescence, que c'est le genre d'ouvrage qu'on peut enrichir en permanence. Mais un beau jour, il faut dire, bon, stop.
Oui, tout à fait. Alors, en plus, on va le refaire complètement à zéro. Hein, ça ne sera pas une deuxième édition. On va le recommencer et il sera probablement numérique. Mais effectivement, là, on a fait une liste de notions. Pour l'instant, on a un peu plus de 660. Mais à chaque fois qu'on se réunit, on en rajoute. Donc, je pense que c'est un travail de plusieurs années. Effectivement, au bout d'un moment, il faudra dire stop. Quitte à, justement, comme ça sera numérique, à en rajouter de temps en temps, faire le point, augmenter. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un dictionnaire.
Vous pourrez l'enrichir même carrément. Exactement. Tous les ans
Oui, peut-être, oui. C'est du travail qui est très long, mais effectivement, on pourra l'enrichir, on pourra ajouter des exemples, des contenus multimédia, etc.
Marion Tellier, Anne Joro, Laura Abouhaïdar, restez avec nous. C'est l'heure de retrouver, comme chaque mercredi, la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Chantal.
Vous n'avez pas trop le moral aujourd'hui.
Oui, ça se voit tant que ça, comme dirait ma fille. C'est vrai, aujourd'hui j'ai un peu le seum. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je crois.
Bon alors, prenez pas la mouche Chantal, je sais que vous êtes une femme toujours dans le vent, que vous êtes à la page. Mais comme c'est une expression relativement récente, eh bien, je vous propose qu'on fasse le point avec le lexicographe Édouard Trouillet. Mais avant, comme d'habitude, on va écouter les propositions
des enfants.
Imaginons, tu devais aller à une teuf. Une teuf, c'est une fête. Genre, tout le monde te dit, ah, t'es invité. Et en fait, t'es pas invité. T'as le seum.
Ah, le seum, ça veut dire que t'es dégoûté.
Avoir le seum, ça veut dire être grave déçu.
Je pense que ça vient d'un mot d'anglais. Meuse.
Ça serait seum en verlan. Je pense que c'est un mot qui a été inventé par les jeunes.
Seum, peut-être, ça vient du verbe semer. Parce qu'en mode, tu sèmes partout tes espoirs. Mais en fait, tu sèmes que des faux espoirs, genre des mauvaises herbes.
Bonjour Édouard Trouillet.
Bonjour Lucie.
Alors avoir le seum, on l'a entendu, les enfants, pas de surprise, ils connaissent bien le sens de cette expression.
Oui, c'est une expression qui est relativement récente, mais qui a quand même presque 20 ans, puisque les premières occurrences remontent à 2004, et qui signifie ressentir du dépit, du ressentiment.
On dirait aussi être dégoûté, être énervé.
Voilà, il y a beaucoup d'expressions synonymes, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des expressions synonymes avec des mots comme venin, fiel ou bile, c'est des mots qui sont un peu plus anciens, mais qui ont un sens proche, et on va voir que l'origine également est proche.
Alors, ce qui est intéressant avec ce mot, cette expression « avoir le seum », c'est que son sens dépend aussi un petit peu du contexte. C'est-à-dire que ça peut à la fois dire être frustré, avoir la haine ou avoir le cafard. En tout cas, comme vous le disiez, c'est éprouver du dépit, du ressentiment. C'est un sentiment assez négatif quand on a le seum.
Voilà, disons que le sens de l'expression est assez large, mais dans tous les cas, c'est toujours des sentiments négatifs.
Alors, ce mot « seum », il vient d'où ?
Eh bien, ce mot vient de l'arabe sem ou sem, qui signifie d'abord venin et ensuite jalousie et rage.
Venin, si je ne me trompe pas, on n'est pas trop loin de la bile ou de quelque chose qui serait un petit peu acide, aigre, difficile à avaler, quoi.
Exactement, on se rend compte qu'en fait, c'est un phénomène courant dans les langues, qu'il y ait un parallélisme entre une sécrétion du corps humain et un sentiment négatif. On le retrouve donc avec venin, bile ou fiel.
On est dans le lexique argotique.
Oui, alors on est dans ce qu'on appelle en général le langage des jeunes ou peut-être au départ le langage des jeunes de banlieue, même si c'est une appellation qui est un petit peu vague, un petit peu imprécise.
Oui, parce qu'il faut préciser que cette expression aujourd'hui, elle est plutôt utilisée par des personnes qui ont moins de 25 ans.
Voilà, même parfois un petit peu plus. Et d'ailleurs, on retrouve maintenant le mot « seum » dans les dictionnaires, ce qui prouve que le mot s'est répandu.
Et puis, cette expression « avoir le seum », elle est apparue dans une campagne nationale de sécurité routière, une campagne qui était donc à destination des jeunes pour lutter contre l'alcool au volant. Et le slogan de cette campagne, c'était « si t'as pas le seum, t'as le seum ». On écoute un extrait tout de suite.
Alors,
c'est quoi le seum ?
C'est le spleen, le malaise, le cri de tous les mecs et meufs en galère en 2013.
Ah ouais. Et Sam, c'est qui ?
Bah, c'est le mec ou la meuf qui te ramène quand t'as trop teasé, quoi.
Ok.
Oui, alors on comprend, Edouard Trouillet, est-ce que cette campagne n'ait pas eu un grand succès auprès des jeunes ?
C'est vrai qu'en général, quand des campagnes publicitaires sont lancées avec une tentative d'imiter le langage des jeunes, en général, ça marche pas très bien et ça fait plutôt rire les jeunes qu'autre chose.
Alors, quand on a le seum, on a la haine. On est dégoûté, on dirait aussi qu'on est saoulé.
Qu'on a le cafard, le blues, le spleen.
Alors ça, c'est des expressions qui sont un petit peu plus désuètes.
C'est des expressions plus anciennes et c'est vrai que pour le langage familier, pour ce qui concerne ce type d'information, la langue a tendance à pas mal se renouveler et le seum a en effet relégué le blues au placard.
Alors, en Angleterre, on dit effectivement avoir le blues, mais les Allemands, eux, attrapent des grillons quand les Français ont le cafard, par exemple.
Voilà, donc on retrouve la métaphore de l'insecte.
Et les Grecs disent qu'ils ont leur noir ou qu'ils ont le moral peint en noir. Assez parlant, en fait.
Absolument. C'est vrai que la couleur noire a toujours été associée aux sentiments négatifs et notamment aux sentiments de tristesse. Et il faut savoir, d'ailleurs, vous parliez des Grecs, que le mot « mélancolia » a été formé à partir du mot « mélanos » en grec, qui signifie « noir ».
Eh bien, merci Edouard Trouillet pour vos éclairages qui ont remis un peu de lueur dans toute cette noirceur. Vous n'avez pas le seum. La preuve, vous allez bientôt revenir dans la puce autour d'une nouvelle expression. En attendant, je rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique sur le site de RFI, mais aussi sur celui du français facile @rfi.fr et sur les réseaux sociaux aussi, bien sûr. À très bientôt.
Merci Lucie, à la semaine prochaine. Marion Tellier, une dernière question. Est-ce que consulter un dico spécialisé, disciplinaire, ça s'apprend ?
Oui, ça s'apprend parce que le dictionnaire disciplinaire, ça va donner une première définition pour dégrossir un peu la notion. Et puis après, si le dictionnaire est bien fait, comme disait Angelo tout à l'heure, bah, y a de la bibliographie complémentaire, on identifie les auteurs clés et on va plus loin dans des lectures spécialisées.
Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été nos invités, Laura Abouhaïdar, Anne Jorot et Marion Tellier. Grâce à vous, on sait tout ou presque sur les dictionnaires disciplinaires. Merci à nos collègues de France Bleu Isère d'avoir permis ce duplex avec Grenoble. Je rappelle que la journée de réflexion sur les dico-disciplinaires, ce sera vendredi à l'Alliance Française de Paris et en ligne. La réalisation a été signée Olivier Roux et la coordination Cécile Lavolo. À demain avec Pascal Danaé, le chanteur du trio Delgrès.